Bonjour, c'est Bernard et je vous propose une évasion sur mes chemins particuliers. Dans une précédente émission, nous avions découvert en compagnie de Jacques Boissier, apiculteur, l'univers secret et laborieux des abeilles. Aujourd'hui, c'est avec Astrid, l'épouse de Jacques, entourée de ses amis, que nous nous évadons au pays des miels, des pains d'épices et autres douceurs. Alors, on y va, c'est tout bon.
Alors c'est très spécial
l'arbre.
Il y a une amertume assez forte, ouais.
Comment on va appeler cet épisode? C'est Astrid et ses miels ou Astrid et son miel?
Ah non, le miel, c'est les abeilles. Le miel, c'est les abeilles. Moi, c'est les conditionnements, mise en pot, étiquetage. Voilà. Et, mais le miel, c'est les abeilles. Et c'est les garçons qui sont en ruche plutôt que moi.
La bruyère blanche du printemps. Erika, c'est la bruyère rose là, de l'été.
C'est plus fort.
Et la caluine, plus... celle qui va être rose violette.
Je t'en dirai une plus, tu goûtes.
Nous, ici, c'est bon, un peu l'extraction et puis tout ce qui est transformation. Mise en pot, bien sûr, et puis tout ce qu'on peut faire avec le miel. Disons que petit à petit, j'ai mis au point des recettes au fil des années, quoi.
Tu as inventé des procédés, tu as inventé
disons que on fait ses propres recettes, quoi. Des recettes de pain d'épices, il y en a des centaines. Après, moi, j'ai fait la mienne telle que, voilà, que j'ai mise au point et que mes clients aiment bien.
Alors là, on approche du local de la miellerie et déjà ça sent bon.
Alors celui-là, il va avoir un goût de caramel plus prononcé. Erika a une légère acidité, la caline est vraiment forte et elle a une consistance comme une gelée un peu. Voilà, ça coule pas.
On commence par quoi?
Tu veux voir quoi?
L'extraction,
peut-être du miel si tu veux.
Ça sent bon à l'approche là, ça sent bon. Ça sent le pain d'épices. Oh, c'est magnifique tout ça.
Elle est sortie. Voilà, donc on rentre les hausses avec sur palette avec les élévateurs là. Hein, et on met la première hausse ici pour extraire. Donc voilà, alors, un cadre.
Alors là, on a un cadre avec.
Un cadre de miel.
D'accord.
Donc les cadres passent là, avec un principe de rabot, tu vois là. Comme un taille-crayon un peu.
D'accord.
Et ça râpe la cire.
Donc la cire décolle la cire.
Ça coupe la cire qui est là, qui est ce qu'on appelle la cire d'opercule, hein, pour pouvoir ouvrir l'intérieur des cellules que le miel coule.
D'accord.
Donc ça coupe. Ici, ça décapite en quelque sorte. Ça enlève la cire d'opercule. Et là, c'est donc la centrifugeuse.
Hein. La centrifugeuse. Voilà. Alors c'est quoi le principe de l'extraction?
C'est juste une centrifugeuse, c'est-à-dire qu'il y a une force centrifuge, les cadres sont à l'intérieur, ils tournent à une certaine vitesse, et le miel s'écoule dans ce bac.
Il est éjecté en périphérie.
Voilà, il s'écoule là.
Dans le bac, et là, voilà, il y a
une vis sans fin qui le pousse, et qui l'amène dans cet outil qu'on n'a pas rebranché, mais qui est là, qui est ça s'appelle le spinomiel, c'est fait pour séparer la cire et le miel.
Hein,
donc ça tourne lentement toute la journée.
Parce qu'il reste un petit peu de cire dans le miel.
Ah, il reste toujours. Bien sûr. Puisque quand on enlève l'opercule, il y a de la cire.
D'accord.
Toutes les opercules, si tu veux, là on ne filtre pas. Le filtrage se fait par cette machine-là.
D'accord.
Donc d'un côté, dans les paniers, c'est des paniers qui sont comme ça, qui retiennent la cire. Et c'est comme une essoreuse, si tu veux. Voilà, et le miel sort ensuite, qu'on met dans des bidons. En un premier temps, on appelle ça des maturateurs. On va laisser se reposer un certain temps le miel et on le met en pot derrière ou en cave si on ne le met pas en pot tout de suite.
Et alors ça, c'est une préparation qu'on fait. Là, c'est noisettes et amandes grillées, pilées dans un miel crémeux. Avec une petite touche d'essence d'orange.
Tu as goûté les miels?
Voilà, en tartine ou en fond de tarte aux pommes, c'est délicieux. Mettez une cuillère dans une pomme au four, quoi. Il y a plein de choses à faire.
Ouais.
Après, il y a autre chose, c'est que si tu veux les miels qui sont en fût et conservés en cave, dans l'hiver, évidemment, ils vont figer. Donc, ceux-là, tout ce qu'on n'a pas mis en pot en saison de récolte, on les défige à ce moment-là pour les mettre en pot plus tard. Mais bon, le défi, on a un défigeur, ça ne monte pas haut en température, quoi. Et le miel refige derrière. Voilà.
Et ouais, ça change beaucoup. C'est vrai que dans le commerce, en général, les miels sont à peu près...
Ils ont tous le même goût.
Ouais, voilà.
Ils n'ont pas tous la même texture, par contre.
Oui, bah, suivant comment ils sont mis en pot, comment ils sont conservés et autres. Ouais. Ils ont des textures différentes. Mais après, c'est vrai qu'on va retrouver... Il y a quelques grandes cultures qui font beaucoup de miel. Et du coup, dans les commerces, on va retrouver quasiment les mêmes miels à chaque fois. Quoi. C'est ça, le truc. Et après, là, il y a plein de petites mielées là, qu'on fait, mais qui font très peu de miel, quoi. Il y en a même, on les amène et ça va faire du miel qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Mais bon, quand on l'a, on est content, quoi. C'est des miels tellement particuliers que...
Donc là, c'est la partie uniquement extraction. Après, tout ce qui est mis en pot, on le fait dans l'autre espace de l'autre côté.
Oui, la mise en pot, elle se fait en fonction des besoins, oui, c'est ça. Donc là, on arrive dans le magasin. Bonjour, madame.
Ça va bien ? Oui, ça va. Pardon.
Vous en prie. Quel dommage de ne pas pouvoir transmettre les parfums. C'est fantastique.
Alors, il va y avoir le châtaignier,
ouais.
et les bruyères, en fait. Les trois bruyères, voilà, c'est les miels qu'on fait en Cévennes.
De toute façon, il y a toujours des odeurs. Nous, on ne les sent plus parce qu'on est toujours dedans. Mais d'une part, le miel, les épices, quand on fait le nougat, ça sent fort. La cire sent, tout a une odeur. Et c'est vrai que c'est des odeurs qui sont très particulières. Quoi. Voilà. En général, les gens aiment beaucoup, à part quelques enfants qui sont surpris et qui ne supportent pas. Il y a quelques fois, il y a des enfants qui ressortent parce qu'ils ne supportent pas l'odeur du miel.
C'est fort. Ouais. Il faut reconnaître que c'est très, très fort. Alors là, en fait, il n'y a pas que miel. Alors,
je sais pas, on a beaucoup de variétés, puisqu'on fait beaucoup de transhumance. Hein, c'est tout le travail des garçons. Et on commence... ils ont transhumé cette nuit sur la bruyère blanche, donc sous la neige.
Ils étaient où ?
Et au-dessus des plantiers, Sommane.
Dans les Cévennes ?
Dans les Cévennes.
Et il y avait de la neige ?
Et oui. Il neigeait, oui. Ils ont posé sous la neige. Alors, je ne sais pas si... J'espère qu'elle ne va pas geler, parce qu'elle était en fleurs, là. Et il ne faudrait pas qu'elle gèle, parce que du coup, ça... Les abeilles n'auraient rien mangé.
La bruyère, c'est ça ?
Bruyère blanche, arborescente, c'est celle du printemps. Il y a 3 bruyères, là, on a 3 bruyères en ce moment. Celle du printemps, celle de l'été et celle de l'automne. Et puis, ils ont transhumé lundi et mardi sur le romarin, à Narbonne, les Corbières, la Clape. Hein ? Donc là, ces transhumances, c'est les premières transhumances de printemps, quoi, de fin d'hiver.
Alors le miel, il est toujours liquide à la base ? Et après, il va cristalliser.
Et
donc là, on va mettre le crémeux, on va le mettre à un peu plus au froid, en cave. Et on va faire un travail dessus pour qu'il n'ait pas de grains, qu'il ne soit pas dur, qu'il soit vraiment bien crémeux. Comme ça. Petit travail de brassage, en fait.
Camille et blanche arborescente, là. De toute façon, on les prend tous, alors. Hein.
Heureusement que tu n'as pas mis des louches. Hein, parce que...
Ah oui, là, il aurait fallu des pots plus gros.
C'est bon, celui-là.
Mielade orange.
Ah, je connais pas.
Alors ça, c'est pas un miel, c'est un miela. Donc ça vient pas de la fleur. Ça vient pas du nectar de la fleur, mais ça vient de la sève de la plante. Comme les miels de sapin, les miels de chêne. Ça, c'est le miel de ronce.
Et comment ils le piquent, les abeilles ?
Et alors, c'est pas les abeilles qui vont piquer directement. Il faut un autre insecte entre les deux. Donc, en général, c'est le puceron qui va piquer la plante. Il va manger un peu des sèves. Il va en faire tomber partout sur les feuilles. Les abeilles vont venir lécher les feuilles pour ensuite en faire un miela.
Ah, c'est une sauce ?
Voilà. Et dans le cas de la ronce, c'est pas les pucerons, c'est un petit papillon, une petite cicadelle qui s'appelle le maître calfin, qui fait ce travail-là. C'est vrai qu'il a un léger goût de mélasse, un peu, voilà, c'est pas tout à fait le même parfum.
C'est pas mal du tout, ça.
J'avais goûté du miel de sapin une fois.
Ouais, le miel de ronce.
Voilà, 3, j'arrête parce que de toute façon j'en commence 3, j'en mange 3 et puis voilà. Donc c'est... Calune, bruyère blanche et ronce.
Et arbousier. Combien de ruches au total ?
Oh, en ce moment, on tourne sur 800 ruches, mais avec trois postes d'apiculture.
Mmh. Hein ?
Oui, c'est pas beaucoup, puisque le minimum d'installation, c'est 400 ruches par personne.
Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon.
Donc voilà, okay. Un peu juste, mais...
C'est fantastique, là, tout ça.
Ah ben, y a des couleurs, il y a les différences de texture. C'est sûr qu'ils sont très très différents. Hein. Et de goût, n'en parlons pas. Entre un châtaignier, un lavande, un acacia, un bruyère. Voilà. Après, dans les produits, donc, tu vois, il y a les bonbons qu'on fait à la sève de pin et au miel de lavande avec de la propolis. Et puis, bon, les pains d'épices, beaucoup, toujours qu'on fait. Et voilà, après, c'est beaucoup les mises en... les différentes mises en pot, les corbeilles, les choses comme ça, qui font que les gens peuvent faire un cadeau qui est agréable et goûteux. Et puis, il y a voilà, les produits à base de propolis, la cire et les bougies, les encaustiques.
Tellement de choses. Je vois au mur des tableaux.
La peinture, c'est autre chose. Je me bats un petit peu pour garder mon temps, je te dirais, hein, pour peindre. C'est une lutte. Mais voilà, ça, c'est mon travail à moi. J'ai toujours que le reste, c'est des activités. C'est vrai que c'est mon travail, mais ça me tient à cœur. Et puis, j'en ai besoin, quoi.
Donc, il y a les activités professionnelles et le travail de l'autre.
Et le travail qui est mon travail personnel.
Et le travail, c'est la peinture.
Oui, ouais, parce que c'est un travail sur soi, tu vois. Le reste, c'est une activité. C'est pour moi, hein. C'est pas forcément pareil.
Ah, mais, oui, mais
parce que tu sais, la peinture, c'est particulier. Les gens, ils disent, quand les gens te parlent de la peinture, quand ils savent pas ce que c'est, ils te disent, ah, mais c'est bien. Vous faites de la peinture, ça doit vous...
C'est un passe-temps, quoi.
C'est un passe-temps, quoi. C'est bien, vous faites... ça doit vous distraire, tu vois. Alors que c'est pas ça du tout. La peinture, c'est un travail qui est beaucoup plus important que ça et qui est pas forcément plaisant et facile tous les jours. C'est une remise en question permanente. C'est aller jusqu'au bout. C'est voilà, ça nécessite de gros efforts et un gros investissement. Qui est beaucoup plus important qu'une activité telle que celle qu'on a là. Parce que, si tu veux... j'ai besoin de cet équilibre entre les deux. Parce que le fait de travailler ici et de faire les choses... d'une part, c'est léger pour moi, parce que je n'ai pas un investissement fondamental quand je fais un pain d'épices ou quand je ne m'investis pas de la même façon. Donc, c'est un côté plus léger. Et puis, c'est le contact avec les autres. Parce que quand je suis à l'atelier peinture... là, je suis toute seule. On est très seul quand on peint, on travaille, on est tout seul. Et moi, j'ai besoin d'être complètement seule. Je ne peux pas travailler en atelier, par exemple. Je sais que j'ai horreur de ça. J'ai besoin d'être toute seule et de travailler sans qu'on me dérange et de voir personne et de ne pas avoir de téléphone et de fermer ma porte. Mais c'est un isolement. Tandis que dans la semaine, quand je travaille là, avec le contact avec les gens et tout, c'est se retourner vers la vie et vers une ouverture. Mais j'ai toujours besoin de ces deux choses, parce que l'une me repose de l'autre aussi. Et puis ça me permet, le temps où je ne suis pas dans l'atelier, de prendre de la distance, de réfléchir, de penser en continuant d'ailleurs. Dans ma tête, je continue le travail de peinture, même quand je ne suis pas à l'atelier, mais avec une distance. Donc c'est un côté positif. Et c'est vrai que je dis toujours, moi je serais incapable de faire que peindre, parce que je pense que ça me rendrait folle, il y a quelque part. C'est une espèce d'enjeu qui est trop, trop difficile. Et le fait d'avoir les deux en alternance, ça me permet de relativiser, et puis de ne pas être obligée d'avoir à vivre de ma peinture. Ça, j'y tiens absolument, parce que quand on a à vivre de sa peinture, on est quelquefois obligé de se perdre. Tandis que là, je sais que... j'expose, je vends pas. Si je vends, c'est bien, c'est une reconnaissance pour moi plutôt qu'autre chose. Si je vends pas, c'est pas grave puisque mon alimentaire est assuré autrement. Et du coup, je suis totalement indépendante dans mon travail. Je suis libre de faire ce que j'ai envie, comme je suis, et pas de faire quelque chose qui est à la mode, qui est demandé, qui va correspondre à une tendance, parce que justement, et j'en suis totalement libre. Du coup, je peux rester moi-même. Et c'est vrai que c'est un gros problème, hein, le fait des artistes qui veulent rester comme ça et qui, les périodes où ils ne vendent pas, se trouvent un peu acculés comme ça et qui s'aigrissent parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils n'ont pas d'autre existence.
Le miel t'évite d'être... t'évite l'aigreur.
Le miel me permet une certaine liberté, bien qu'il m'en prive beaucoup dans le temps. Mais,
oui,
mais
ça,
voilà.
Ça te prend du temps, mais ça te donne de la liberté.
Ça me prend énormément de temps, mais ça, voilà, ça me laisse une indépendance d'esprit, en tout cas.
Là on quitte le...
On ressort, oui, pour
l'atelier. Je vais demander à Astrid quand même de nous dire où on est là, de nous décrire le cadre.
C'est devant de porte, hein, avec un bel espace devant. C'est vrai qu'on a un très bel espace devant, avec des tables, hein, pour les marcheurs, pour les gens qui veulent boire un café. Puisque les gens qui viennent marcher, on offre toujours une boisson chaude, histoire de... Et puis un bout de pain d'épices, ou, voilà. Et puis les gens aiment beaucoup, ils s'installent là, ils se reposent, ou ils discutent. Voilà, et puis après, il y a un grand pré avec des poules et des moutons dedans.
Il n'y a pas que le miel.
Et il n'y a pas que le miel, oui, mais ça, c'est pour notre autarcie.
Vous y arrivez, là, à l'autarcie?
Pas loin, parce qu'on a les lapins, les moutons, les poules. Oui, on n'est pas loin. On a le jardin, bien sûr, hein. On a une serre où on fait pousser des salades tout l'hiver, c'est Jacques qui s'en occupe. Et puis, pas mal de cultures.
Donc, une forme d'autarcie presque complète. Et j'ai
au niveau de l'alimentaire, oui.
Oui, il n'y a pas encore plus de pétrole, faire de l'essence. heureusement.
Mais, donc, on n'a pas encore mis d'éolienne. Mais...
Il y a l'autarcie à peu près complète sur le plan alimentaire et une vente directe. C'est-à-dire
une vente directe de miel.
On en a parlé l'autre jour,
ouais.
Une vente directe de miel. J'ai retenu cette phrase qu'a dit Jacques, et on vend ce que l'on produit et on produit ce que l'on vend.
Oui, et c'est une grosse satisfaction d'aller du début à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que de faire un produit au mieux, et puis d'en avoir la reconnaissance des gens en retour. Et de l'avoir directement, de ne pas vendre en gros et de ne pas savoir ce que devient le produit. Bon, ça demande aussi... un suivi, hein, sur le produit quotidien. Et il faut que le miel arrive dans son meilleur état dans la main des clients. Quoi. Et ça compte. Et c'est pour ça qu'on a une qualité qui est... on est très exigeant sur la qualité parce que tous les jours, on a le retour des clients qui nous disent oui, ça va ou ça va pas.
On va simplifier. Je vis en autarcie. Je fais une vente directe, donc sans intermédiaire. Je travaille en famille, puisqu'il y a donc un GAEC avec
les deux garçons, les deux fils.
Il n'y a pas un risque d'isolement du monde?
Un peu. un peu. C'est sûr que, moi je vais te dire, on a travaillé énormément et j'ai attendu d'avoir 50 ans pour dire je prends mon dimanche et on arrête de vendre le dimanche et je ferme le magasin le dimanche. Mais c'est des grosses exigences. Bon, les enfants les ont moins parce que du coup on a instauré le samedi et le dimanche pour eux et ils ne viennent pas travailler le samedi et le dimanche. Mais nous on a toujours travaillé pratiquement tous les jours de l'année. Mais c'est l'agriculture aussi qui est comme ça. Et puis quand on démarre quelque chose et qu'on veut aller le faire comme il faut, ça demande beaucoup de temps. Et c'est très exigeant. Alors c'est vrai que c'est à un moment, au niveau social, c'est pas facile. Quand on travaille le dimanche, que les vacances d'été, ça n'existe pas. Parce que l'été, c'est la saison des abeilles. Alors nous, on prend quoi, une semaine ou 15 jours en hiver de vacances. Mais c'est toujours à contre-temps. Mmh. Mais voilà, c'est aussi une marginalité qui correspond un peu à notre envie de vivre quelque chose de différent. Quoi. C'est un autre style de vie, une autre qualité de vie aussi, dans une certaine mesure.
Et puis les gens viennent.
Les gens viennent, oui. On manque pas de contact avec les gens, puisqu'on en voit tous les jours, quoi. Mais après, bon, c'est vrai que Jacques s'est toujours, par exemple, maintenu dans le syndicat d'apiculture à l'époque ou au niveau professionnel pour le service vétérinaire ou à la mairie.
Il y a quand même des engagements à l'extérieur.
Il a eu des engagements extérieurs. Mmh. Oui. Il a été adjoint pendant des années à la mairie. Oui. Voilà, quoi.
Donc, oui, alors, bon, donc c'est aussi, pas totalement c'est pas l'isolement. Quand même.
Non. Non.
Quand même. C'est rassurant. C'est bien. Là, vous réalisez quand même, la famille, là, vous réalisez une sorte de rêve que beaucoup de gens ont, mais dont ils ne se sont pas donné les moyens.
Je pense beaucoup à des jeunes, par exemple, qui démarrent ou qui rêvent de ça. Il y a vraiment une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est du boulot, quoi, tu vois. C'est que ça représente, c'est pas la tranquillité absolue. Bon, c'est paisible dans la mesure où on a une vie paisible, mais... et qu'on n'a pas des agressions, je veux dire, on n'a que les agressions qu'on se met nous, ou que les obligations qu'on se met nous, mais elles sont quand même nombreuses, quoi. Hein. C'est pas...
Oui, non, bien sûr que...
C'est pas léger.
On a une vision idyllique.
Et oui, c'est pas idyllique, c'est du travail, quoi. C'est le travail comme le travail de la terre, hein. C'est quand même... c'est un travail avec physiquement pénible, je veux dire, tu vois, les problèmes de dos, des problèmes de sommeil, parce que tu conduis beaucoup la nuit, de surcharge de travail, voilà. Mais c'est très saisonnier, en même temps c'est lié à la nature. Alors par exemple l'hiver, ben, ma foi, on rentre tôt, on se mange tôt, on se couche tôt. Et l'été, par contre, on mange à 10h du soir et on se couche à minuit. Quoi. Suivant, et en fait, on rentre avec le jour. Et dès que la nuit tombe, ben, on est dedans. Et on a vraiment la saison très marquée, beaucoup plus que la plupart des gens. C'est sûr. La récolte, par exemple, c'est super, quoi. C'est... En même temps, il fait très chaud. Si tu veux, la récolte de la lavande ou du tournesol, par exemple, c'est en plein été, donc avec une chaleur très, très, très forte. Et toujours, on travaille en plein midi, en plein milieu de journée, parce que c'est le moment, d'une part, le temps d'aller à l'emplacement, et c'est le moment où les abeilles sont le plus à l'extérieur. Donc, on travaille toujours en plein milieu de journée. Alors, tu as au moins, 5-6 litres d'eau qui dégagent, t'en peux plus, ou tous tes habits et tout, avec la chaleur qu'il fait. Tu bosses énormément physiquement, à charger, décharger, enfumer et tout, c'est très physique. Et puis, t'as le cœur qui bat fort et tout, et ça, tu te mets dans un autre état, quoi. Ouais. C'est un autre état. Mais c'est en même temps les odeurs, la couleur, tu vois, il y a tout, quoi. Alors, en plein été, t'as la couleur des fleurs, t'as la couleur du miel, t'as la fumée, il y a tout ça, quoi. Et c'est vrai que la récolte, c'est quelque chose de très beau quand on y travaille, quoi, quand on y est.
Je reviendrai le jour de la récolte. C'est à quel moment?
Les récoltes, ça dépend. C'est l'été en général. Ouais. Hein. Oui. Il y en a ça dépend, puisque le romarin, s'il y en a d'ici un mois, on récoltera. Mais c'est très aléatoire, les récoltes de printemps. Après, c'est juin-juillet. Essentiellement juin-juillet. Et puis septembre, s'il y a de la bruyère.
Je reviendrai. In constant sorrow through his day. Eh bien, écoute, Astrid, moi je vais repartir en te remerciant vivement de ton accueil, de ta disponibilité. et de nous avoir entrouvert une porte entre l'activité autour du miel et des abeilles et le travail autour de la peinture. Merci Astrid.
Avec plaisir, Bernard.
C'était une évasion au pays des miels, des pains d'épices et autres douceurs. Merci à Jacques et Astrid Boissier pour leur gentillesse, leur accueil et leur disponibilité. Merci également à Antoine, leur fils, pour nous avoir fait goûter, au sens propre, tous les miels de leur production. Cette émission et la précédente sont disponibles désormais sur fréquenceusage.com, l'adresse internet de Radio Fuse 107.5. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur d'autres chemins particuliers.
I'll meet you on God's golden shore.